encore commencé un nouveau sillage, un nouvel axe. Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de saisir les divers axes de la philosophie. Vous voyez, voilà. Vous commencez à comprendre que la philosophie s'appuie sur ces deux grandes expériences humaines, l'expérience de l'agir, l'expérience du facere. Et l'expérience du facere, je crois, est pour nous première génétiquement. Le gosse commence, surtout aujourd'hui, à faire de la mécanique. C'est une expérience très nette, hein, qui fait de la mécanique. Il commence à jouer avec des culs, avec les uns sur les autres. Il construit. Et ça va plus vite, ça. C'est jouer. Le jeu, c'est un travail. Hein. C'est une autre manière de travailler. Quoi. C'est un travail. C'est sûr, c'est une activité. C'est pas de l'agir, le jeu. C'est encore une activité d'ordre artistique du facere. Donc il y a le facere, il y a l'agir. L'agir, on comprend parfaitement ce que c'est qu'agir quand on commence à aimer vraiment profondément une personne humaine. Il y a la coopération. Trois pieds. Trépied d'elfe, hein, connais-toi toi-même. Alors, c'est le trépied, il y a les trois grandes expériences humaines sur lesquelles tout repose. Ça, le facere, l'agire, et la coopération. La coopération. Je crois que toute la philosophie repose sur ces trois expériences. C'est l'ordre pratique, ça. J'en ai l'expérience directe. Dans toutes ces trois expériences-là. À partir de là, on va entrer dans la connaissance de la philosophie dite spéculative. Nous l'avons vu. Il faut bien comprendre, hein, ce qui est le plus proche de nous, c'est ces expériences de notre activité. De notre activité d'homme, de notre activité humaine. Puis, il faut aller plus loin. Alors ça, c'est la grande raison. Pourquoi faut-il aller plus loin? Pourquoi compliquer les histoires, hein? Pourquoi entrer dans une philosophie spéculative? Ce serait tellement bien de rester uniquement dans cette philosophie-là. Vous voyez, c'est la tentation de la philologie. La philosophie de la philologie réfléchit sur l'agir, le facere, la coopération. Tout est là. Et toute la philosophie est là. Et c'est intéressant parce que ça montre dans notre monde d'aujourd'hui, vous voyez, nous avons beaucoup de peine à dépasser l'aspect de la philologie. Des quantités restent dedans, et puis c'est tout, c'est tellement plus facile. On est à un niveau descriptif, de description de ma propre expérience. Là, je suis au niveau donc de la philologie comme telle. J'essaie de comprendre, de décrire ce que sont les grandes opérations que je ressens. Nous allons plus loin. Nous disons, il y a une philosophie spéculative. Et dans la philosophie spéculative, il y a trois moments. Je le situerai comme ça. Je fais ça pour que vous ayez un petit schéma, hein, c'est utile. Trois moments. Découverte de la philosophie de la matière ou philosophie de la nature. La nature impliquant toujours la matière, mais impliquant quelque chose de plus, impliquant aussi la forme. La nature est une détermination dans la matière. Donc ça implique les deux. Philosophie de la nature, c'est la philosophie qui étudie ce qui est nu. Vous n'aurez pas beaucoup de cours de philosophie de la nature cette année-ci, n'est-ce pas? Malheureusement, parce qu'il faudrait avoir un cours de philosophie de la nature, ce serait bon, intéressant, mais il ne faut pas tout faire. Et puis, philosophie du vivant. Alors, pour Aristote, philosophie de la nature et philosophie du vivant sont inclus dans le même type de philosophie. Je les distingue beaucoup plus que fait Aristote. parce que je crois qu'on doit les distinguer plus. Pour arriver vraiment à ces deux aspects, philosophie du vivant, c'est la philosophie de ceux qui se meurent. Faites l'expérience très simple. Quand vous montez un escalier, et puis tout d'un coup, quelqu'un vous donne un bon coup de poing, vous dégringolez tout l'escalier. Alors faites l'expérience de ce qui est mu et l'expérience de ce qui se meurt. L'expérience de ce qui est mu est beaucoup plus douloureuse. C'est ça. Et l'expérience de ce qui se meut, c'est vrai, celui qui est mu, il est patient. Une partie. Pas exprès cette expérience-là. Là, tout à l'heure, on disait, je n'ai pas d'expérience parce qu'on se casserait les jambes, ça me venait la mode. Alors, c'est pas la peine. Quand on dit l'expérience de celui qui se meut, ah, celui-là, c'est l'expérience de l'autonomie. Dans la mesure où je me meut, je suis autonome. Dans la mesure où je suis nu, je suis patient. Il y a les deux. Et alors, dans celui qui est nu, dans celui qui se meut, il y a toujours les deux. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve ici la nature. On retrouve ici la matière. Mais il y a quelque chose de plus qui est là. Il se meut. Et puis, le dernier aspect, c'est la philosophie première. Métaphysique. Chaque fois, je monte plus. Mais faisons attention, hein. C'est très bien. C'est un schème, ça. C'est un schème. Un schème n'est jamais la vérité, hein. Vous comprenez bien, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Dans mon intelligence, j'ai les trois aspects par où je touche là, parce que c'est toujours pour étudier là. C'est intéressant de voir ça. Oui, une véritable anthropologie, vous voyez bien, toutes les dimensions de l'anthropologie.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Là, le présent, chaque fois. Et si je pousse jusqu'au bout, je vois que la philosophie première me conduit à la théologie naturelle, je donne tout de suite ce que je veux, à la théologie naturelle, c'est-à-dire la manière dont l'homme est capable de découvrir l'existence de l'être premier. Alors, il faudrait mettre au-dessus. Hein. Voyez, je dis ça, mettez ça au-dessus, tout simplement. Alors, vous avez la septième dimension. Il fallait bien arriver à celle, quoi. Vous avez la septième dimension. Et la septième dimension, c'est quoi? C'est de regarder l'homme en tant qu'il est créé. L'homme dans sa relation vis-à-vis de Dieu. Donc c'est homo religiosus. Vous êtes en tant que religieux, vous êtes toujours au septième étage. Homo religiosus, c'est le dernier aspect. C'est l'aspect ultime. C'est l'homme dans sa dépendance à l'égard du Créateur. L'homme, je découvre le Créateur. On verra comment. Nous découvrons ça grâce à la philosophie première. La philosophie première, elle se transforme en théologie. Et tout cela peut impliquer, alors je dis bien, tout cela peut impliquer un regard critique, que nous verrons dans le film demain, c'est-à-dire un aspect réflexif. Je peux critiquer chacun de ces moments. J'ai conscience que je travaille. J'ai conscience que j'aime. J'ai conscience que je coopère. J'ai conscience aussi que je suis partie de l'univers. J'ai conscience que je suis un vivant. J'ai conscience que j'existe. J'ai conscience... Ah, ça, point d'interrogation. Puis-je dire que j'ai conscience que je suis une créature? Posez-vous la question, c'est intéressant. Là, je peux dire ça. Là, j'ai donc... Est-ce que j'ai conscience que je suis une créature? Ou est-ce que je pose que je suis une créature dans un jugement de sagesse? Quand je vous vois, première chose que je fais, pas du philosophique, hein, pas du point de vue de la foi. Ça, c'est la différence entre la philosophie et la foi. Quand je vous vois, je ne dis pas tout de suite, oh, quelle belle créature. Parce que pour pouvoir dire quelle belle créature, il faut le dire en fonction du Créateur. La créature se définit en fonction du Créateur. Donc c'est dans la lumière du Créateur, c'est pour ça que ça a un jugement de sagesse. J'ai pas l'expérience d'être une créature. C'est très important dans le dialogue qu'on fait avec des athées. Vous dites, mais vous n'avez pas l'expérience d'être une créature. Non, j'ai jamais eu l'expérience d'être une créature. Alors quand vous dites ça à un athée, il commence à respirer, il dit, ah, il est pas bête celui-là. Vous voyez, il est d'accord avec moi. Il est d'accord avec moi. Si vous dites, mais j'ai conscience que vous êtes une créature, vous regardez un peu, vous dites, ah, mais non, j'ai l'expérience que je suis autonome. J'ai l'expérience que je suis libre, j'ai l'expérience que je peux organiser ma vie. Ah, il y a des limites, c'est évident, il y a des limites, mais au fond, j'ai cette expérience-là, j'ai pas l'expérience d'être une créature. C'est très important, ça. Mais une philosophie réaliste me fait comprendre que je n'ai pas l'expérience, au point de vue philosophique, au point de vue humain. Au point de vue de la foi, c'est différent. La foi me dit tout de suite que je suis une créature. Dans le credo, me dit tout de suite. Je crois que tu es créateur du ciel et de la terre. Du Dieu, du monde visible et invisible. Donc, je suis une créature, au point de vue de la foi. Mais dans mon regard philosophique, je n'ai pas l'expérience. J'ai pas l'expérience. Donc la conscience, je n'ai pas la conscience d'être une créature. Mais la conscience d'une créature, c'est quelque chose d'assez particulier. Je n'ai pas la conscience d'une créature. J'ai dans un jeu de sagesse. Alors vous voyez, il y a l'attitude réflexive. L'attitude réflexive, c'est essayer de comprendre à quel niveau je me situe. C'est ça qu'on appelle la philosophie critique. J'ai donc une huitième dimension qui n'ajoute rien aux sept. En réalité, il y a sept dimensions. Et il y a les sept dimensions enveloppées d'une attitude particulière que l'homme est un roseau pensant. Que l'homme est capable de se critiquer à tous les niveaux. Il peut réfléchir sur ces différents niveaux. Mais en réalité, une véritable anthropologie, c'est ça qui me semble très important. Parce que ça, il faut y réfléchir longuement et revenir tout le temps. Une véritable anthropologie, elle a sept dimensions. Sept dimensions. Et ça, c'est assez étonnant. Vous comprenez très bien, si on est chrétien, c'est très étonnant de comprendre ça. Indépendamment du christianisme, c'est quand même très intéressant, si on est chrétien, de découvrir qu'une véritable anthropologie a cette dimension. Parce qu'alors, il y a donc sept attentes des dons du Saint-Esprit. Un fils de Dieu, c'est celui qui est mu par l'Esprit-Saint. Il est mu de sept manières par l'Esprit-Saint. Ah, il doit y avoir une correspondance entre les deux, c'est pas pour rien qu'il y a sept. Vous voyez, c'est intéressant de voir ça, parce qu'alors c'est là on voit comment une philosophie réaliste, loin de s'opposer à la foi, est au contraire une attente de Dieu qui vient vers moi. Et dans l'attitude alors de voir l'homme en tant qu'il est une créature, on découvre que l'homme est capable d'être autonome en tant que philosophie du vivant. La philosophie, la vie nous donne une autonomie. Et être en même temps dépendant. Alors là, on touche quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pour ça que j'ai besoin de distinguer ces sept degrés. Si je ne distingue pas ces sept degrés, il y a des choses devant lesquelles je ne pourrai jamais rien comprendre. Il y a sept niveaux d'intelligibilité en moi. Sept niveaux d'intelligibilité. Et si je suis vraiment philosophe, je dois toujours comprendre ces sept niveaux d'intelligibilité. Je ne dois jamais les confondre. Si je commence à les confondre, il y aura d'immenses conséquences graves. Je dois distinguer ces sept niveaux d'intelligibilité, ces sept niveaux d'anthropologie. Et c'est là où il serait intéressant de mettre en parallèle avec l'anthropologie ancienne. Parce que vous n'arrivez pas à ces sept niveaux. Là, je suis dans le réalisme des sept dimensions de l'homme. Et alors, vous voyez bien que lorsqu'il s'agit de la philosophie du vivant, auquel nous allons venir, c'est pour la situer, puisque nous regardons les commencements, c'est bon d'avoir une petite vue d'ensemble. Pas systématique, mais des axes. Vous avez sept axes. Alors, ce que l'imagination, c'est très simple, il faut mettre l'homme comme au centre d'une grande forêt. Et là, vous avez sept. Sept manières de le regarder. Vous regardez l'homme avec sept manières. Vous le regardez en tant qu'il est homo faber, en tant qu'il est homo amicus, en tant qu'il est homo politicus, en tant qu'il est partie de l'univers, pars totius, il est une partie d'un tout. En tant qu'il a son autonomie, son indépendance, en tant que vivant, en tant qu'il est une personne capable d'être libre, personne libre, en tant qu'il est une créature, alors vous voyez tout de suite, l'autonomie, la liberté, la dépendance. Si je ne fais pas les 10 et 15 sont là, je dirais, mais c'est contradictoire. L'homme est à la fois l'être le plus dépendant et le plus autonome. Parmi tous les êtres que je constate, j'ai une autonomie plus grande que la fourmi. Je crois. J'ai une autonomie plus grande que l'araignée. Évidemment, il y a des gens qui se réduisent à être une araignée dans une communauté. Un petit sortoir, et puis ils voient quand les mouches tombent dedans. C'est le pion. Il tisse sa toile et puis il voit le victime qui tombe dedans. Alors il y a des gens qui se réduisent à ça. C'est le fonctionnaire. Parce qu'un animal, il a des fonctions. Alors le fonctionnaire qui n'est que fonctionnaire, qui réduit ça peut être. Alors il est que ça. On peut très bien. Mais en réalité, l'homme a cette dimension. Alors il a la liberté, l'autonomie. Et en même temps, il est radicalement dépendant. Puisqu'il est une créature. Il est radicalement dépendant dans son être. Il est autonome dans sa vie. Il est libre dans son esprit. Plus votre esprit se développe, plus vous êtes libre. Plus la vie en vous est grande, plus vous êtes autonome. Parce que quand vous commencerez à vieillir, hein, vous serez beaucoup plus dépendant du contexte dans lequel vous êtes. Au point de vue de votre vie, pas au point de vue de votre esprit. Si vous avez continué d'être de plus en plus spirituel, vous restez absolument libre. Plus on est spirituel, plus on est libre. Plus on est vivant, plus on est autonome. On a une autonomie quand on est en pleine vie. Quelqu'un est en pleine santé a une autonomie. Quelqu'un qui manque de santé, il a toujours été un tout petit peu, vous voyez, un peu maladif. Donc il a toujours été un peu maladif. Donc il dépend du plus dans lequel il est. Parce que s'il n'y a pas tant de degrés, il ne peut plus rien faire. Il faut qu'il ait exactement ce qu'il faut. Ah, il fait trop froid ici, il fait trop chaud, je ne peux plus. Vous voyez ? Alors, parce qu'il manque de vitalité. S'il avait plus de vitalité, il serait plus autonome. Plus on a de vitalité, plus il y a d'autonomie. Plus l'esprit en nous se développe, plus on est libre. Alors, quelque chose qui reste toujours le même, c'est la dépendance à l'égard du Créateur. On est radicalement dépendant du Créateur dans notre être. Radicalement. Et ma dépendance à l'égard de Dieu dans mon être est la même que celle de l'araignée. Parce que l'araignée est radicalement dépendante de Dieu dans son être. Radicalement, c'est une dépendance radicale dans l'ordre de l'être. Je prends conscience de ça. Il n'est pas un jugement de sagesse que l'araignée ne fait pas. Mais je prends conscience de ça. Mais l'araignée dépend dans son être. Donc vous voyez, il y a les trois dimensions. L'être, la vie, l'esprit. Et c'est ça que respecte parfaitement cela. Donc l'esprit, c'est ici. La philosophie première va développer en moi le sens de mon esprit. La philosophie du vivant développe en moi mon autonomie. La philosophie, la théologie naturelle dépend de ma dépendance radicale à l'égard de Dieu. La philosophie de la nature et de la matière me fait comprendre mon conditionnement. Je suis un être conditionné puisque je suis dans un univers. J'ai été créé dans un univers. Sous telle planète, mon conditionnement. Sous tel astre, mon conditionnement. C'est parce que j'ai un corps que je dépends de l'ensemble de la planète. C'est bien évident. La philosophie du facere me fait comprendre mon dominium sur l'univers, pas sur les planètes. Les planètes m'échappent, c'est pour ça que les anciens disaient qu'elles étaient divines. N'est-ce pas ? Parce qu'elles m'échappent. Alors, parce qu'elles m'échappent, elles sont divines. Elles me transcendent, tandis que le petit monde matériel sur lequel je suis et les satellites de la Terre commencent à être colonisés. C'est l'homme qui commence à dépasser. Le point de vue de l'agir me montre comment je suis capable d'entrer en relation avec les hommes, l'amitié, et la coopération, comment cette amitié peut devenir plus efficace. La coopération, c'est l'efficacité plus grande. Il y a les sept dimensions de l'homme. Ça, c'est très très important à réfléchir. C'est un peu la toile de fond sur laquelle il faut avoir toutes ces recherches philosophiques. Nous recherchons les dimensions de l'homme au point de vue philosophique et nous essayons de comprendre la richesse de ces dimensions. Oui, c'est quelque chose d'important à saisir. Bon. Alors, dans cette perspective des sept dimensions, il y a une dimension tout à fait particulière, c'est que l'homme est un vivant. Et même, on peut dire que parmi tous les vivants que j'expérimente, l'homme est le vivant le plus parfait. Parce que il a la vie dans une plus grande autonomie. Je suis plus autonome dans ma vie qu'une plante. Parce que je peux me transplanter. Donc, transplanter, je me transplante. Je suis donc capable de dépasser la fixité de la plante. La plante, elle fait vœu de stabilité. Alors, elle est enracinée, elle est enracinée, tout à fait fixée. C'est-à-dire que je suis capable de me transplanter. J'ai plus que la vie d'animal. Parce que je suis capable de me critiquer. Je suis capable de m'orienter. Parce que j'ai la vie de l'esprit. Alors, je suis le plus vivant parmi tous les êtres. Alors évidemment, il peut y avoir à côté de moi un homme vivant qui est plus vital que moi, d'où la jalousie. Enfin, je trouve qu'il est trop vivant celui-là, il a trop de vitalité, il pourrait bien m'en donner un tout petit peu. Mais alors on voit très bien que mais c'est toujours l'homme, donc c'est le vivant parfait. Il faut donc essayer d'étudier l'homme sous l'aspect de la vie. Bon. Alors, avant d'entrer dedans, je fais un petit regard de topic historique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des philosophes qui ont parlé de la vie? C'est intéressant. C'est même très intéressant de regarder ça. Alors ici, c'est plus riche que tout à l'heure par rapport au Fatcheré. Au point de vue du Fatcheré, j'ai vu qu'il y avait au fond très peu de philosophes qui avaient fait la philosophie du travail. Tandis que lorsqu'il s'agit du vivant, je peux dire que assez vite. La philosophie grecque s'est attardée au vivant. Mais cependant, je dois reconnaître que le premier qui a fait une philosophie du vivant, distincte des autres parties de la philosophie, c'est Aristote. Ça, il faut le reconnaître. Parce que son père était médecin. Ce que disait l'historien. Parce que le philosophe et le médecin, vous savez, c'est toujours un tout petit peu connexion. Un bon médecin devrait être philosophe, et je ne dis pas qu'un bon philosophe devrait être médecin, parce que ce n'est pas absolument nécessaire, mais il doit s'intéresser à la médecine et à la biologie. Il doit s'intéresser à ça. Autrement, il y a quelque chose qui lui manque au point de vue philosophique. Donc, Aristote est le premier. Après Aristote, qu'est-ce qu'il y a comme traité du vivant? Pas beaucoup. Les traités du vivant chez Aristote sont très nombreux. Je vous les donnerai une fois, parce que c'est intéressant de voir tous les traités du vivant qu'Aristote a regardé. Mais je vous ai dit tout à l'heure, où il y a quelque chose que nous devons aller un peu plus loin qu'Aristote, c'est que Aristote met le traité du vivant dans le traité de la nature. Il ne distingue pas assez. On comprend très bien comment il fait ça, parce qu'il le fait au niveau critique de connaissances spéculatives. Or, la connaissance spéculative du vivant est comme la connaissance de la nature. Elle implique toujours une composition. Tandis qu'au contraire, la connaissance spéculative de la philosophie première est séparée. Et c'est pour ça qu'Aristote fait les deux ensemble, la philosophie mathématique, la philosophie première, la métaphysique, complètement séparée. Et puis il met les mathématiques en troisième lieu, il les maîtrise ici. En dehors de la philosophie, mais faisant partie de la connaissance spéculative, les mathématiques. Les mathématiques sont intermédiaires. mais elles sont en dehors de la philosophie. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas traiter de la finalité. C'est pour ça que les mathématiques ne sont pas, au sens strict, une partie de la philosophie. Ça l'intéresse beaucoup, parce qu'au niveau spéculatif, ça donne quelque chose de très intéressant, mais ça n'atteint pas la finalité. Les mathématiques, pour Aristote, sont finalisées par le beau, et non pas par le bien. C'est le beau qui finalise les mathématiques. Les mathématiques regardent l'ordre, un ordre qui est beau. C'est la beauté. C'est très curieux, ça. Je ne vais pas rentrer dans ce problème-là, si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est intéressant de voir que c'est le point de vue qui est en dehors de la philosophie, parce qu'on n'a pas la finalité. La finalité est découverte en philosophie. C'est le propre du philosophe de découvrir la finalité de l'homme. Tandis que le mathématicien ne traite pas directement de l'homme, parce qu'il ne traite pas directement de sa finalité. Il traite de l'univers et de l'homme, vous voyez, mais ne traite pas directement de l'homme. Tandis que toutes les parties de la philosophie doivent regarder l'homme immédiatement et regarder la finalité de l'homme. Alors, après Aristote, on n'a plus traité du vivant distincte de la philosophie première. Et le traité du vivant chez Aristote, c'est le traité sur l'âme. On essaiera de comprendre le péripsuchès, c'est le traité de l'âme. Quand je regarde les théologiens ont toujours utilisé le point de vue de l'être, le point de vue de la vie et le point de vue du devenir. C'est même une des choses très intéressantes à voir dans saint Thomas. C'est qu'on retrouve constamment dans saint Thomas le point de vue de l'être et le point de vue de la vie. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça c'est très important. Je crois que lorsqu'on est en face de Descartes, il y a une confusion chez lui entre le point de vue de la vie et le point de vue de l'être. Et donc la distinction entre le numéro 5 et le numéro 6 n'est pas fait. Ça, c'est la grande faiblesse de Descartes. Il n'y a plus de distinction entre l'être et la vie, au sens très fort. Au fond, l'être n'intéresse pas Descartes, c'est que la vie qui intéresse Descartes. Et ceci jusqu'à Hegel. Dans l'hegelianisme, ce qui intéresse Hegel, c'est la vie. C'est pas l'être. C'est la vie. C'est ça qui finalise, c'est l'immanence de la vie. C'est très curieux, on va dire, là, on voit une continuité. On voit que la distinction, cette distinction qui est pourtant très importante entre le point de vue de la vie et le point de vue de l'être, de fait est abandonnée. Et alors on voit beaucoup plus que la philosophie, ayant abandonné la philosophie première, la philosophie va regarder l'être, le vivant, les opérations d'âme, qu'on appelle Bergson. C'est une philosophie du vivant. C'est ça qui l'intéresse avant tout. C'est le point de vue de la philosophie du vivant. Quelle est la grande intuition de Bergson? C'est la durée. Et la durée, c'est propre du vivant, justement. Et tout le point de vue de l'être n'est plus regardé, il n'y a plus que le point de vue du devenir. Le point de vue du devenir assumé par la vie. La vie dépasse le devenir. Alors c'est ça qui est très curieux, et ça je crois que c'est intéressant à saisir, c'est qu'on voit que dans l'histoire de la pensée occidentale, la distinction entre philosophie première et philosophie du vivant est confondue. Et c'est la vie qui l'emporte sur l'être, comme toujours. On est plus proche dans notre expérience interne du vivant que de l'être. Parce que vous avez une expérience interne de la vie et vous n'avez pas expérience interne de l'être. Et c'est pour ça que de fait, je crois qu'il y a ce glissement. Alors la philosophie de la vie risque de tout l'emporter. Et vous avez un chef-d'œuvre de cela dans le thomisme de Blondel. Blondel, ce thomiste, Parce que saint Thomas, il est philosophe chrétien, catholique, et Blondel alors, assume tout saint Thomas par une philosophie du vivant. C'est la philosophie de l'immanence. C'est la philosophie de l'immanence. Et il y a une philosophie de l'immanence, c'est une philosophie qui se veut vitale. Et au fond, on ne redécouvre plus véritablement une philosophie du vivant distincte d'une métaphysique. Bon, je n'en dirai pas plus, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas commode. Hein. Et je crois que c'est ce qui fait que une théologie de l'Église, et souvent c'est difficile à faire, parce qu'une théologie de l'Église devrait se faire à partir de la philosophie du vivant. Alors, dans la mesure où il n'y a plus de philosophie du vivant, où on tombe dans une phénoménologie, une description, où on tombe dans une philosophie, dans une théologie scientifique. Oui, et c'est vrai que lorsqu'on s'agit de la théologie de l'Église, on est en face de cela, parce qu'au fond, il y a une confusion. Alors, nous allons maintenant, après avoir donné ce petit rappel, nous allons essayer de comprendre comment peut s'édifier une philosophie du vivant. Une philosophie du vivant s'édifie par une expérience propre que j'ai du vivant, c'est-à-dire de moi vivant. C'est pour ça que la philosophie du vivant, vous voyez, c'est la philosophie de moi vivant, en réalité. Parce que je n'ai pas d'expérience de la vie en dehors de celle que j'ai moi-même. Quand je regarde une vache qui regarde le TGV passer, c'est vrai, pour elle, c'est un phénomène nouveau dans la nature. Hein. Ça va plus vite. Alors, quand elle regarde cela, qu'est-ce qu'elle pense? Je ne sais pas. Qu'est-ce que la vache voit dans ses gros yeux? Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle a là, comme sentiment, sensation? Je n'en sais rien. Je projette. Moi, je vois le TGV qui passe. Ça passe plus vite. Je dis, ça va plus vite. Alors c'est une qualité, puisque la rapidité est une qualité du mouvement. Donc, c'est supérieur au petit train qui va lentement, n'est-ce pas ? C'est supérieur. Je le vois, et j'ai conscience de ça. La vache, je sais pas. Quand je vois un chien qui pleure, parce que je suis rentré à la maison, il pleure, je dis, quelle fidélité ! Qu'est-ce qu'il a comme, qu'est-ce qu'il a le chien comme sentiment? Je n'en sais rien. J'en sais rien. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas immanent à la vache. Je ne suis pas immanent au chien. Alors je n'ai pas d'expérience de la vie du chien et de la vie de la vache. La seule vie que je connaisse, c'est ma vie. C'est la vie de mon ami qui prolonge ma vie. Mais là encore, c'est indirect. La seule expérience que j'ai de la mort, c'est ma mort. Mais j'ai une certaine expérience de la mort d'un ami. Mais pas direct, c'est indirect. Alors comme je n'ai pas l'expérience de la mort, je suis en attente. Je n'ai pas l'expérience de la mort. Donc, je n'ai pas l'expérience plénière de la vie. Parce que pour avoir l'expérience plénière de la vie, il faudrait regarder le point de départ et le terme. Est-ce que j'ai l'expérience du point de départ du vivant? Non. Sauf si je me fais psychanalyser pour essayer de revenir au premier instant de la conception et pour essayer de saisir ce que j'ai senti à ce moment-là. Je ne sais pas du tout. Premier moment de la conception, ça m'échappe. La mort m'échappe. Donc le point de départ et le terme de la vie, ça m'échappe. Je ne peux saisir que certains aspects de la vie. C'est très curieux, ça. Parce que je saisis de l'intérieur la vie. Alors que ça fait partie aussi de l'expérience limitée de mon cosmos, de mon univers. Puisque je n'ai pas l'expérience du point de départ et du terme. Donc j'ai des pensées limitées. Je ne connais pas parfaitement ce que c'est que le cosmos, ce que c'est que la nature. J'ai une connaissance spéculative. Je n'ai pas la connaissance du point de départ et du terme. Donc c'est limité. Je n'ai pas une connaissance exhaustive du vivant. Je n'ai pas une connaissance exhaustive de ma planète, de mon univers. J'ai une connaissance beaucoup plus profonde de l'être. Puisque je peux connaître la création. Et puis je peux connaître l'être qui est au-dessus de tout. C'est très curieux, ça. J'ai une connaissance beaucoup plus exhaustive de l'être. Une fois que j'ai atteint l'être premier, ben, je ne peux pas aller au-dessus. Et une fois que j'atteins l'être premier, je peux comprendre ce que c'est que la création. Et donc j'ai une connaissance beaucoup plus profonde de l'être, beaucoup plus totale. C'est très curieux, vous voyez. Au fond, la seule connaissance spéculative parfaite que je connais, c'est la philosophie première. Les autres, je ne les connais pas totalement. C'est limité. Tandis que la philosophie première, qui regarde l'être, ah, j'ai une connaissance beaucoup plus parfaite. Elle est plus difficile, elle est plus analogique, donc plus confuse, mais elle va plus loin. Parce que je peux connaître l'être. Dans sa source et dans son terme, en tant que créé. L'être ne meurt pas. L'être n'est jamais anéanti. Tandis que l'être vivant meurt. Et je n'ai pas l'expérience de la mort. L'expérience de la naissance, je la vois chez les autres. Mais chez moi, j'étais dans un état tellement d'émotion forte au moment de la naissance que mon état affectif était tellement grand que je n'ai pas eu cette expérience. J'ai loupé cette expérience. C'était malheureux, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'un seul désir, c'était de respirer. Hein? C'était la seule chose. Il fallait passer d'un milieu à un autre et trouver l'autonomie. Première respiration, quand même quelque chose d'important. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça me donne l'autonomie. Et je n'ai pas l'expérience de ma conscience du point de départ à long terme. Alors j'ai la conscience de certaines de mes opérations. Et c'est ça que je dois comprendre en premier lieu. J'ai conscience de certaines opérations vitales. Alors, première enquête, vous voyez, puisque la philosophie part de l'expérience, nous le verrons en métaphysique, je ne le fais pas ici, nous verrons que la métaphysique, comme toute philosophie part de l'expérience, je pars de mes expériences vitales. Mes expériences vitales, quelles sont-elles? Alors, je peux les énumérer. Ça, nous pouvons tous faire ça. Faites les expériences vitales d'une journée. Je me réveille tous les jours. Je me réveille tous les jours. Et par le réveil, j'ai l'expérience de... que je dors. L'expérience de mes rêves. Tous les jours, j'ai cette expérience que je me réveille et que j'ai dormi. Parce que l'expérience que vous avez du sommeil n'est pas complète. À moins d'être un homme très extraordinaire, mais normalement, vous n'avez pas l'expérience complète du sommeil. Vous avez l'expérience du sommeil à partir du réveil. Ah, j'ai bien dormi. Vous n'avez pas dit ça quand vous dormez. Non, vous dites ça quand vous êtes réveillé. C'est très curieux. Vous n'avez donc... vous pouvez pas commencer une philosophie par le sommeil. Vous ne pouvez pas commencer une philosophie par le rêve. Vous commencez une philosophie par le fait d'être réveillé. La philosophie du vivant, première expérience, être réveillé. Donc, on respire. Et si vous êtes un vivant parfait, l'adoration. Vous voyez, vous expérimentez ça. Vous faites l'expérience ensuite de quoi? De la respiration. Première expérience vitale, je respire. Puis, vous mangez, vous buvez. Ça, c'est l'expérience que je fais. Puis, l'expérience de savoir, ah, il fait bon aujourd'hui, ou il fait froid. C'est tout à fait autre chose, hein. C'est pas l'expérience de mon éducation et de l'autre. j'ai l'expérience du milieu du pain dans lequel je me trouve. Je suis bien, moi j'ai froid ce matin. L'expérience des passions. Il fait chaud, il fait froid, il fait bon. Des sensations qui sont accompagnées d'un état passionnel. D'un état passionnel très simple. Je suis euphorique, je suis bien. Au contraire, je me dis, ah, puis tout de suite à m'ennui, c'est tel jour, je dois faire telle chose désagréable. Je me rappelle la mémoire. L'imagination. Toutes ces expériences de la vie, elles sont très très nombreuses. Hein. Je suis dans un état de haine. Une haine passionnelle. Hein. La haine passionnelle, nous faisons tous l'expérience de ça. Je fais l'expérience des désirs. Je fais l'expérience de la fuite. Je fais l'expérience des onze passions. Il y en a 11 passions thomistes. Donc je fais l'expérience des 11 passions thomistes, 11 passions en moi, 11 manières de ressentir les choses. J'ai l'expérience de mes sensations, imagination. Je fais l'expérience que je pense, un peu plus tard. L'expérience que je pense. L'expérience que je suis capable de penser de diverses manières. L'expérience de ma volonté. Là, je suis bien réveillé. Je veux être réveillé. Je veux faire ça. Donc, vous avez cette expérience multiple de toutes vos opérations vitales. Et toutes ces opérations vitales vous mettent en lien avec le milieu dans lequel vous êtes. Le vivant s'éveille à un milieu. Et en tant qu'il s'éveille à un milieu, il dépasse ce milieu. Donc, il faut comprendre que le point de vue de la philosophie du vivant commence par toutes ces expériences internes et externes. Les deux sont liés. Première chose de la philosophie du vivant, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi de cette multiplicité et de cette unité. Et c'est cette expérience de la multiplicité et de l'unité qui me fait poser l'âme et qui me fait poser le corps. Le corps, c'est bien évident, on est tous d'accord. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps. Hein. Et on le touche. Mais l'âme, c'est plus difficile. Alors, c'est la première chose que la philosophie du vivant doit faire, c'est de saisir le point de vue du corps et le point de vue de l'âme.